bonjour tout le monde. Avez-vous senti, les amis, avez-vous senti flotter dans l'air le parfum du changement? Il se passe quelque chose depuis quelques mois. Subtile modification, imperceptible transformation, discrète métamorphose. Quelque chose d'inhabituel exhale de l'actualité. Un parfum de chair fatiguée, un fumet de linge rance se dégage de la politique du petit royaume qui est le nôtre. Il y a une année de cela, c'était pourtant comme toujours. On se trahissait gentiment, on se haïssait avec douceur, les complots sourdissaient avec soin, rien d'inhabituel. Et puis ça a commencé timidement d'abord, avec un simple zizi qui ne collait pas à la barre. On aurait pu croire à une péripétie, mais en réalité, ce zizi inaugurait une phase nouvelle de notre politique, une phase se situant en dessous de la ceinture, mais au-dessus des genoux. Une nouvelle phase que chez nous les Belges, nous appelons désormais la phase du pipi. Oui, les amis, beaucoup de zizi, beaucoup de pipi depuis quelques mois. Alors on a pu entendre des c'est scandaleux, des c'est dégoûtant, du quelle honte. Mais ce matin, je vais tenter de calmer toutes ces mauvaises langues calomniant zizi et pipi, et plus généralement la scatologie, sans savoir que non seulement le sujet n'est ni scandaleux, ni honteux, ni dégoûtant, mais qu'à travers les siècles, les plus grands auteurs se sont emparés à pleine main du sujet éternel de l'évacuation des déchets par un orifice ou un autre, en particulier si l'un de ceux-ci appartient à un puissant. Mais enfin, Thomas, vous n'allez pas parler de tout ça à une heure de grande écoute. Écoutez, François, en un mot, commençons. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Si l'élite de notre société le peut, je le peux aussi. Alors ce matin, sortons par le haut des sujets qui traitent du monde d'en bas. En réponse à l'actualité, essayons-nous à une brève leçon sur la scatologie en littérature. Prenons le problème par son derrière et considérons qu'il y a de la beauté dans la déjection, et ce, qu'elle soit ministérielle ou prolétaire. Ce matin, inspirés par nos élus et nos élus qui se soulagent dans les rues, parlons à la radio des excréments, des croupissures, de la crotte, du mucus, du smegma, des pets, des vents, de la merde et de la pisse, expression bien naturelle du métabolisme et surtout joyeux symptôme du vivant dont l'absence signifie, et oui, que vous êtes mort. Au 5e siècle avant notre ère, le poète Aristophane, grand amateur d'étrons et de cul, écrivait déjà dans les nuées, considère donc qu'avec ton petit ventre, tu as fait un paix résonnant. Il est naturel alors que l'air qui est immense produise un bruit détonnant. Au 16e siècle, François Rabelais publie Gargantua, dont tout un chapitre est consacré à, je cite, l'art de se torcher le cul. Un extrait. Après avoir chié, je me suis déjà essuyé au rideau, au coussin, aux nappes, aux pantoufles, au panier, mais il n'y a rien de tel qu'un oiseau pour se torcher, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et croyez-moi, vous sentirez au trou du cul une volonté mirifique, tant par la douceur de l'animal que par sa chaleur qui est communiquée au boyau du cul et puis aux intestins jusqu'à venir à la région du cœur et du cerveau. Un peu plus tard, le plus grand auteur espagnol du siècle d'or, Francisco de Quevedo, poète et théologien, écrit son chef-d'œuvre paillard intitulé « Heure et malheur du trou du cul ». Il explique que ce texte est, je cite encore, « un désespoir rageur qui chie sur le blason des monarques ». Et il assume son sujet en disant que toutes les existences commencent par des larmes et du caca. Mais enfin, Thomas, cessez immédiatement. François, je vous réponds avec ces mots du poète François Maynard, qui écrit au 15e siècle « Sache, lecteur, que je me pique d'écrire avec liberté et qu'un épigramme pudique est un ouvrage sans beauté ». Passons quelques siècles et découvrons le dramaturge Alexis Piron, qui parle lui aussi des déjections des puissants. Que vois-je au ciel? C'est un étron, et la matière en est louable. Il est gros comme un saucisson, et garnirait bien une table. C'est l'œuvre du plus grand des rois. Odeur et goût sentent le trône, venu tout droit d'un anus bourgeois. Thomas, la régie va vous couper le micro. Mais François, Walt Disney n'a pas hésité non plus. Souvenez-vous de la chanson de Pumba, le facochéa du roi lion. Disgrâce, infâme, inonde mon âme. Je déclenche une tempête chaque fois que je... Oui, ça fait rire les enfants et les adultes, parce que, pour citer Bergson, l'âme est taquinée par les besoins du corps. Et ce matin, c'est le matin de la crasse et de l'ordure, la crasse qu'Alfred Jarry, dans Uburoi, à la fin du 19e, associait lui aussi au puissant. Ubu, monarque grotesque, ignare, brutal, avide d'argent, sans morale, qui répète le mot « merdre » tout au long du texte. La pisse et la crotte sont présents partout, chez Louis Ferdinand Céline, dans « Mort à crédit ». J'avais toujours le derrière sale, je ne m'essuyais pas, je n'avais pas le temps, on était toujours trop pressé, je faisais caca comme un oiseau entre deux orages. Et puis évidemment, pour conclure ce biais fangeux, qui de mieux qu'Antonin Artaud et son texte pour en finir avec le jugement de Dieu. Ici, le célèbre passage intitulé « La recherche de la fécalité », là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier comme il aurait choisi de vivre. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme, et ce quelque chose est justement le caca. À la semaine prochaine.
Je ne conclurai pas Thomas Gunzik en disant qu'on pourrait s'essuyer avec votre billet. Merci beaucoup pour cette réflexion philosophique et littéraire sur les déjections de grand matin. C'est pas toutes les semaines. Hein.